Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir pour cette première présentation bordelaise des éditions La Tempête, qui vont venir présenter à la fois leur maison d'édition et les trois ouvrages, dont un qui sort d'ici deux semaines, si je ne me trompe pas. Et on a la chance de vous recevoir tous les quatre ce soir, ce qui est donc encore une fois une première bordelaise. Merci à toutes et à tous.
Du coup, moi, je vais commencer par un peu présenter la maison d'édition. On a fondé la maison en 2015 avec l'envie, je pense, d'essayer de partager une pensée ou plutôt une recherche dans une pensée politique qu'on voudrait actualiser. Et nous connaissons, nous sommes rencontrés dans les mouvements sociaux, les mouvements étudiants de ces 10 dernières années. Et on a, après avoir éprouvé quand même pas mal de mouvements, pas mal de moments politiques assez intenses, on avait eu le besoin de faire une sorte de retour réflexif sur nos pratiques et sur nos gestes. Et surtout sur les gestes intéressants pour agir dans notre époque maintenant. Et on a, en fait, on a commencé avec un premier ouvrage de Georges Lukács, De la pauvreté en esprit, qui posait un peu une chose qui était importante pour nous. C'était de se dire que la question de la forme de vie, c'est pas quelque chose qui est donné, qui est inné, et c'est quelque chose qui est de l'ordre de la construction. Et donc, il ne s'agissait pas seulement de partir d'une forme de vie dite révolutionnaire pour bien penser notre vie politique, mais de donner une forme à cette vie-là qui est une vie nue, comme il a décrit. Ensuite, Spartacus, qu'on va présenter là ce soir, c'est un texte qu'on a commencé à rencontrer par le biais de son auteur, Furio Gezi, qui est cité au tout début d'un film sur les manifs de Gênes pendant le G8 ou 20 ou 8, et il était tout au début de ce film qui a filmé les manifestations, qui a filmé Gênes, autant pendant que les rues sont pleines d'affrontements et avec les forces de l'ordre à ce moment-là, et les rues vides après les ravages de cette manifestation. Et il y avait en exergue de ce film ce qu'on a mis en quatrième de couverture de l'ouvrage qui décrit les rapports renouvelés à la ville dans les moments de révolte. Ensuite, on fait paraître, là, le 1er mars, un livre qui s'appelle « Ne crois pas avoir de droit », de féministes italiennes de la librairie des femmes de Milan. Donc là, je vais essayer de bien le dire. Il y a l'envie, comme point de départ avec les femmes de Milan, de réinvestir la question de la symbolique féminine en tant que pratique révolutionnaire, c'est-à-dire le besoin de retracer un cheminement de pensée entre femmes, à la fois dans l'histoire des femmes, une histoire manquante, de la dévoiler ou de la retracer, et mais aussi entre les femmes qui se rencontrent et qui là, ce qui est décrit dans cet ouvrage, c'est notamment les groupes d'autoconscience, moment de rencontre et de dévoilement entre elles. Mais bon, ça, on en parlera une autre fois. On va maintenant présenter Furio Gezi et l'ouvrage Spartacus, symbolique de la révolte.
Ouais, alors, c'est moi qui suis chargé de présenter Spartacus. Déjà, bon, la première chose qui me semble nécessaire d'ajouter pour la présentation de la maison d'édition, c'est qu'évidemment, c'est moi qui présente le livre, mais ça ne signifie pas que c'est moi qui ai le plus travaillé dessus. Même plutôt l'inverse, en l'occurrence, puisqu'on est quatre dans la maison d'édition et que moi qui présente le livre, je suis sûrement celui qui a le moins travaillé dessus, c'est-à-dire que il y a eu des corrections, il y a eu la mise en page, il y a eu les liens avec l'impression, et moi j'ai rien fait de tout ça, donc voilà. Mais donc ce qui est important quand même dans la maison d'édition, c'est l'aspect de travail collectif. Comment est-ce qu'on fait pour penser même à l'intérieur des choses qu'on fait, le processus collectif. C'est pour ça que chacun de nos livres sont préfacés par la maison d'édition dans un texte écrit collectivement. C'est important de rendre compte du travail collectif et de comment est-ce qu'on pense nos livres et comment est-ce qu'ils élaborent une pensée pour nous, et d'en rendre compte dans les livres qu'on publie même. Parce qu'il y a un chemin qui est en train de se faire très lentement et qui prend des passages détournés, mais qui essaye de trouver une forme. Alors, Furiosésie, il faut peut-être le présenter parce que c'est un auteur inconnu, je pense, ou quasiment pas connu, très peu reçu en France en tout cas. Il y avait un livre de lui qui avait été traduit, qui s'appelait La fête et la machine mythologique, avec une introduction de George Hagenbein aux éditions Mix, à part ce livre-là, il y a très peu de traductions, c'est un auteur un peu inconnu. Pourtant, c'est un auteur qui est important et qui a été très important pour nous, et il faut peut-être déjà parler de sa vie, et puis après on présentera le livre proprement dit et les thèses fraîches et nouvelles qu'il apporte pour penser une politique d'émancipation. Alors, c'est qui Furiosésie ? Donc, il est né en 1941 à Turin. C'est un enfant prodige, à plein d'aspects. Il arrête l'école à 15 ans et il écrit son premier article à 15 ans, d'égyptologie à l'époque. À 15 ans, il se revendique déjà égyptologue. Il écrit des textes d'égyptologie, d'archéologie, de mythologie, et il arrête l'école, donc il aura quasiment aucun parcours universitaire. Il donnera de temps en temps des petits cours à l'université, mais il sera forcément parallèle avec l'institution universitaire. En 64, il va commencer une correspondance qui sera très importante pour lui avec un mythologue italien très important qui s'appelle Carolo Cherini. C'est un mythologue qui a travaillé avec un psychanalyste qui s'appelle Carl Gustav Jung, qui est connu, c'est un des psychologues les plus importants. Et Gési va être un élève de Kereny. Il va reprendre d'ailleurs un certain nombre des concepts développés par Károly Kereny en les radicalisant et en les politisant. Kereny était plutôt un homme sympathique, humaniste, mais plutôt de droite, alors que Gési, très rapidement, et notamment à travers la révolte de 68 à laquelle il participera, il va reprendre les catégories fondées dans la mythologie kérénienne pour les politiser. Notamment, il y a une distinction importante qu'on va retrouver et qui est quasiment la distinction fondatrice du livre. Enfin, une des deux, trois distinctions fondatrices du livre, plus exactement. C'est la distinction entre ce qu'on appelle le mythe authentique et le mythe technicisé. Qu'est-ce que c'est que cette distinction ? Pour Kereny, c'est une chose assez simple. C'est qu'il dit que l'expérience mythique véritable, l'expérience mythique authentique, elle est en lien avec un régime de vérité précis situé. Par exemple, pour les anciens, le contact avec le divin ou les expériences festives de l'Antiquité, il fait tout un travail sur les expériences festives de l'Antiquité, comment est-ce que ça venait rentrer en contact avec la communauté directement vécue. Bon, bref, le mythe authentique, c'est le mythe qui est intimement lié à la vie, c'est le mythe qui ne se sépare pas d'une cosmologie vivante, alors que le mythe technicisé, pour Kereny et pas encore pour Gési, c'est la distorsion d'anciens mythes à des fins de propagande politique. C'est comment est-ce que certains utilisent des mythes comme la terre, le sang, pour en faire de la propagande politique. Et on voit très vite comment ça peut se politiser, ça. On voit très bien comment est-ce que le fascisme, par exemple, va pas cesser de reprendre des mythes anciens, une vieille idée de la communauté, une vieille idée de la famille, une vieille idée de tout ça, pour en faire une propagande politique et pour essayer d'asseoir une idéologie politique. Finalement, après 68, Gési et Kereny se séparent, ou en tout cas se disputent très profondément, et c'est une rupture assez dramatique. Et pour Gési, il dit la rupture est avant tout politique. Il écrit une lettre absolument lyrique à son maître Kérény. Si vous voulez, je vous en dis un passage. Il l'écrit le 14 mai 1968. Il dit « Si le sort me dicte d'adresser ces mots à la personne que je considère comme mon professeur depuis l'adolescence, les temps doivent être particulièrement sombres. Je doute, qui plus est, qu'ils s'éclairciront sans préalablement s'assombrir davantage, c'est-à-dire sans qu'ils n'atteignent préalablement un point de crise. Cette crise se déploiera probablement dans la rue, et l'on s'y battra avec des armes. Une crise dans laquelle même le professeur et son disciple, le père et son fils, se trouveront être des ennemis dans des camps opposés. » Bon, il y a quand même cette idée un peu lyrique, on se dit, la crise est tellement profonde, en tout cas Jésus la ressent tellement profondément qu'il dit, on en est à un point où les amis des ennemis se distinguent. Il y a une rupture politique aussi dans ce sens-là. Le professeur et son maître, le disciple et son professeur, pour ne pas me répéter, commencent à se distinguer et à devoir se diviser. Et évidemment, tout le monde sait que le 14 mai 1968, c'est aussi un moment important, c'est le moment d'occupation de la Sorbonne et de proclamation de la Sorbonne des conseils ouvriers. Le 14 mai 1968, la Sorbonne occupée fait un appel à la constitution de conseils ouvriers partout en France. Jésus va écrire ce texte, Spartacus, symbolique de la révolte, après cette expérience, après l'expérience de 68, après les barricades auxquelles il a participé, on ne sait pas dans quelle mesure, mais un petit peu au moins. Et le livre est intimement ancré dans cette histoire-là, ancré dans l'histoire de 68 et des faiblesses du mouvement de 68, de la révolte de 68. Il va l'écrire, ce livre Spartacus, à peu près en automne 1969, durant l'année 69, où on sait qu'en Italie, il y avait un autre mouvement qui était en train de se lancer, notamment à Turin, il y avait la Fiat, la Fiat de Mirafiori qui était en train de se mettre en grève et qui va donner quelque chose qu'on appelle l'automne chaud, qui sera ce qui va lancer le mouvement autonome italien. Donc Jésus prend parole publiquement aussi là-dedans, il écrit un texte qui s'appelle Les Vandales et l'État, où il prend clairement position pour les émeutiers, contre les directions syndicales, et donc il prend position politiquement par rapport à toute cette histoire qui est en train de se faire. Bon, finalement, Jésus va mourir à 39 ans, donc très jeune. Il a commencé à écrire à 15 ans, donc il a quand même réussi à écrire une œuvre considérable qui brasse des thèmes multiples et variés. Et il serait mort, il y a deux hypothèses, mais l'hypothèse la plus probable et désormais la plus acceptée, c'est une fuite de monoxyde de carbone due à une chaudière défectueuse. C'est pas grave. On ne sait pas si c'est un suicide. Il est possible que ce soit un suicide. On ne sait pas. En tout cas, Martha Jésus ne s'est jamais exprimée là-dessus, la femme de Frère Jésus. Bon, on a compris à peu près les points qui étaient vraiment importants pour nous, voilà, très rapidement dans l'idée. Qu'est-ce qui est important, en tout cas, pour aujourd'hui, de relire un auteur comme ça, qui plus est, il le dit lui-même, son livre ressemble plus à Finnegan's Wake qu'à L'accumulation du capital. L'accumulation du capital, c'est un livre de Rosa Luxembourg, c'est très clair, très bien construit. Finnegan's Wake, c'est un livre de James Joyce, très très compliqué, pour ne pas dire littéralement imbitable. Et donc le livre de Jésus est assez dense. Donc du coup, qu'est-ce qui fait qu'on doit prendre la peine, pour moi, et que c'est d'une importance particulière de prendre la peine de lire un auteur qui n'est pas si facile à lire, parce qu'il va poser une question par rapport à la question de la pratique politique que peu d'auteurs finalement posent, qui est justement la question de la mythologie durant les moments de révolte et de soulèvement, et puis de manière concomitante la question du temps. Quelle expérience du temps se fait pendant les moments de soulèvement? Et il ne le pose pas simplement abstraitement, il ne dit pas il faut réfléchir à ça comme ça pour la théorie, il le pense stratégiquement. Qu'est-ce que ça vient modifier stratégiquement? Quelles sont les erreurs faites au niveau de la question de la mythologie et quelles sont les erreurs faites au niveau du temps, stratégiquement, dans les moments de soulèvement? Et qu'est-ce qui fait qu'on échoue tout le temps et nous, on en est les héritiers de cet échec-là? On n'a pas cessé d'échouer. L'histoire révolutionnaire, c'est une histoire qui n'a pas cessé d'échouer. Donc, on doit encore retravailler là-dessus, on doit encore réfléchir pourquoi ça a échoué tout le temps. Je vais essayer de relever, on n'a qu'à dire, quatre points importants du livre, mais il y en aurait beaucoup plus à relever, évidemment. Il faut choisir, quoi. Spartacus, il va travailler sur la question de la révolte, de l'intérieur de la révolte. Il va décider de dire, On ne peut pas parler de la révolte sans se mettre dedans. On ne peut pas parler extérieurement. Donc il s'agit de faire une phénoménologie qui agit de l'intérieur. Il dit, agir de l'intérieur de la révolte, ça garantit l'intérieur, ça garantissant par là, de l'intérieur, l'objectivité de la révolte et ses expériences du temps. On en a une expérience du temps juste et de la révolte constituant de l'intérieur. Donc la première opération que Jésus va faire, j'en ai déjà parlé un petit peu, c'est la différence entre mythe véritable et mythe technicisé. Il va radicaliser ce qu'on a dit de Károly Kereny. Pour lui, pour Jésus, le mythe authentique, c'est ce qui va apparaître justement au moment de la révolte. Un langage collectif, une communauté, un sentiment d'être ensemble, une cosmologie commune qui se produit spontanément au moment du soulèvement. Alors que le mythe technicisé, c'est le mythe qui va être convoqué intentionnellement par l'homme pour arriver à certaines fins. Donc, quand un mythe authentique se produit au moment de la révolte, ce qui surgit, donc, c'est une collectivité qui donne naissance à un langage commun, à des références communes. Alors que le fait d'utiliser, donc de techniciser un mythe pour une propagande politique, ça va servir à asseoir un projet conservateur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et donc, il va mettre en lien ce premier point de distinction avec une autre distinction, la distinction entre la révolte et la révolution. Donc, avec la question du temps. Parce que, qu'est-ce que c'est que la question de la révolte pour Jésus ? Pour Jésus, la révolte, il l'a définie comme la suspension du temps. Quand on se révolte, on s'engage un peu tête perdue dans des gestes, on ne mesure pas nécessairement l'implication des gestes qu'on est en train de produire, on mesure pas, on n'a pas le droit dans la tête vissé dans ce qu'on a, pendant qu'on est en train d'agir, on fait des choses qui sont parfois inconsidérées, on ne pense pas nécessairement au temps qui passe, en tout cas, le temps est en train de se suspendre. Alors que la révolution, et c'est là une des contradictions, peut-être une des distinctions à faire, c'est l'inscription dans le temps historique d'une stratégie consciente. Pour faire la révolution, il faut des buts, des objectifs, une stratégie, essayer de voir comment on va faire pour gagner, et donc il faut inscrire dans le temps historique une stratégie. Pour Jésus, cette distinction, elle est fondamentale, parce que c'est de n'avoir pas pris en compte, d'une certaine manière, suffisamment fortement cette distinction, entre la suspension du temps et l'inscription d'une stratégie consciente dans le temps historique, que les révoltés de 1919 vont se faire écraser, que la révolte spartakiste va se faire écraser. Donc ainsi, le fait que la révolte soit, et donc la suspension du temps, soit le lieu d'ouverture au mythe authentique, c'est-à-dire un mythe qui n'est pas distingué de la vie, qui n'est pas abstrait par des catégories, supérieures, au-dessus, on n'a qu'à dire, de l'expérience phénoménologique première. Le fait que la révolte, on s'y jette, un langage collectif se trouve, une communauté de gestes se produisent, mais en même temps, on n'arrive pas du coup à penser stratégiquement les choses, on n'arrive pas à se projeter, on n'arrive pas à savoir vers où aller, ça va produire un certain nombre d'écueils néanmoins. Parce que si le temps suspendu donne un regard collectif, et donc permet une politisation à l'intérieur même de la collectivité, c'est ce qu'on a dit, l'ami d'hier peut devenir l'ennemi, quand on lit des interviews sur les révolutions, le printemps arabe, c'est ça qu'ils racontent tout le temps, les gens. Et mon ami avec qui j'étais au collège, c'est devenu, il est passé de l'autre camp, c'est devenu mon ennemi. Il y a un moment donné, la révolte scissionne, on n'a qu'à dire, entre la question de... Enfin, scissionne à l'intérieur des traditions particulières. Elle vient rompre les traditions particulières, le temps, ce que Jésus appelle le temps normal. Et donc on va réfléchir sur cette catégorie de temps normal, parce que pour lui, c'est ça. La révolte suspend le temps. L'opération bourgeoise, la manipulation bourgeoise du temps, ce qu'il appelle la manipulation bourgeoise du temps, c'est la réinstauration du temps normal. Et le temps normal, il peut se faire de manière extrêmement violente. En Allemagne, en 1919, pendant la révolution allemande, ça s'est fait avec les corps francs. C'est-à-dire des jeunes fascistes qui revenaient de la guerre, qui avaient du mal à quitter la guerre et qui ont été écrasés complètement à la révolution allemande. Il faut savoir que, peut-être j'ai pas assez parlé de la révolution spartakiste, mais il faut savoir qu'à l'époque le gouvernement était socialiste, essentiellement. Pas que, mais quand même. et que la révolution spartakiste est une rupture à l'intérieur du Parti socialiste qui était au pouvoir, c'est-à-dire il crée le Parti communiste à ce moment-là, qui va rompre avec le Parti socialiste parce qu'il considère que notamment sur la question du soutien à la guerre. Jésus va nous aider en nous donnant une tâche politique nouvelle. En tout cas, c'est la première, à ma connaissance, qui donne cette tâche politique. Il nous dit, nous, ce qu'on doit faire, et ce qu'on doit faire pour comprendre comment lutter, c'est une opération qu'il appelle la démythologisation. Il faut qu'on démythologise. C'est-à-dire qu'on comprenne l'échec de la révolte et des révolutions, non pas simplement de l'extérieur, en disant il y a l'histoire des vainqueurs et il y a l'histoire des vaincus, mais qu'on comprenne comment est-ce que de l'histoire des vaincus même, il y a eu des problèmes, il y a eu des dysfonctionnements. Faire une division à l'intérieur de l'histoire des vaincus, et pas simplement satisfaire de faire la distinction entre les vainqueurs et les vaincus. On voit par exemple, qu'est-ce qui fait qu'en 1936 la CNT a trahi ? Qu'est-ce qui fait qu'en 1917, la CNT et puis les staliniens encore plus évidemment, qu'est-ce qui fait qu'en 1917 les conseillers ouvriers sont fait avoir ? Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois qu'on a un épisode révolutionnaire, il y a quelque chose interne même à la périodicité révolutionnaire qui à un moment donné est travesti ? Donc, il faut réfléchir à l'histoire des vaincus en divisant à l'intérieur de l'histoire des vaincus et pas simplement en divisant entre l'histoire des vainqueurs et l'histoire des vaincus. Et donc, c'est ça qu'il va faire Jésus. Et il dit, donc, c'est l'opération... Enfin, lui, il nous propose un concept pour faire ça, c'est la démythologisation. Alors, rapidement, on va dire deux points qu'il va analyser de démythologisation à l'intérieur de l'histoire des vaincus. Le premier point, c'est le fait que les révoltés identifient leurs ennemis comme des monstres, comme le monstre à abattre, ils leur donnent des noms d'animaux. L'ennemi est vraiment personnifié comme un monstre, comme le diable. En fait, ce que ça produit comme une bête inhumaine, il dit Jésus. Ce que ça produit, ça, c'est le fait que la communauté politique qui s'oppose à lui se constitue uniquement négativement. Et le fait qu'elle se constitue négativement, ça l'empêche d'avoir accès à un mythe véritable, pour reprendre les termes de Jésus, à savoir un mythe qui pourrait se créer spontanément de l'intérieur même de la révolte. Le fait que la communauté politique se constitue uniquement à travers un ennemi commun, ça l'empêche d'avoir accès à une pure immanence, on n'a qu'à dire dans la constitution de sa propre existence collective. Donc ça, c'est un des premiers points, on n'a qu'à dire. Et puis le deuxième point, qui est évidemment dans la continuité, c'est le fait qu'une telle attitude, ça va produire un culte du martyr. C'est-à-dire que si tu t'identifies et t'identifies ta collectivité politique uniquement négativement par rapport à un ennemi que tu as complètement diabolisé, rendu monstrueux, tu vas survaloriser des valeurs comme la vertu, comme le courage, le sacrifice, et donc tu vas produire des martyrs. Et il dit, on peut peut-être essayer de réfléchir en delà des grands chemins, des sacrifices et des martyrs, Jésus. Évidemment, qui c'est qui l'attaque un petit peu derrière tout ça, c'est Rosa Luxembourg, parce que Rosa Luxembourg, qui était la grande chef révolutionnaire de 1919, une femme incroyable, elle savait qu'elle allait se faire tuer à Berlin. Elle savait qu'elle allait se faire tuer à Berlin, et pendant la révolte spartakiste, tout le monde lui disait, casse-toi, qu'est-ce que tu fais là ? Il y a mieux à faire pour toi que de te faire tuer, tu sais très bien que tu vas te faire tuer. Et elle a dit, je reste. Elle a préféré rester, alors même qu'elle savait se faire tuer, qu'elle allait se faire tuer. Elle dit, par fidélité aux révoltes, parce que ces révoltes particulières peuvent servir un projet révolutionnaire plus grand. Mais en fait, ce qu'elle a provoqué là, c'est simplement une... Enfin, je ne suis pas en train de juger de manière complètement dure Rosa Luxembourg et son geste, mais ce qu'elle a fait là, en tout cas en faisant ça, c'est de produire une martyre. Elle s'est devenue une femme martyre. Et c'est possible que nous, qui cherchons à reprendre la question politique, on doive se débarrasser aussi des martyrs. Cet échec de la révolte spartakiste, c'est un désastre dont tout le XXe siècle a payé les frais. Il ne s'agit pas de dire une causalité, mais 1919, si la révolution avait gagné, qu'est-ce qui serait advenu de l'Allemagne ? On sait qu'en 1933, Hitler prend le pouvoir par les élections. Il y a quand même une nécessité aujourd'hui de réfléchir à cette révolte-là, particulièrement aujourd'hui, on est en 2017, on réfléchit beaucoup à 2017, c'est très important, mais On doit réfléchir non pas à 1917 comme étant simplement un point fixe, mais comme la vague qui a lancé. Qu'est-ce que c'est que cette vague qui a lancé, qui s'est lancée à ce moment-là et qui a échoué et qui n'a cessé d'échouer? Je pense qu'au début du 21e siècle, c'est particulièrement important de réfléchir. Bon, une dernière chose rapidement, parce que je m'étends comme d'habitude et je parle beaucoup de trop, c'est la question hyper importante pour moi qu'il développe dans le quatrième chapitre, c'est la question du soi. Du soi, du moi, enfin, on lui dit le soi, c'est plus agréable que le moi. La question qu'il pose, c'est comment la révolte, donc, qu'on a définie comme une ouverture à la collectivité, à une cosmologie commune, on n'a qu'à dire, et donc au mythe véritable, agit sur le soi, sur la conscience de l'individu. Comment est-ce que la révolte modifie la conscience de l'individu? C'est une question importante. C'est même une des tâches les plus importantes de la tâche politique de démythologisation. Et on l'a vu, il y a un problème quand on se pose cette question-là, c'est qu'il y a une différence qui peut être très brutale entre le temps de la révolte et le temps de la révolution. Et le temps normal, pardon. Et le temps bourgeois normal, le temps abstrait. Après la fin de la révolte, le dispositif de normalisation se réenclenche très rapidement. Il y a les flics qui peuvent nous avoir chopés, on peut être en garde à vue. Jésus raconte ça. On peut se retrouver en prison, on peut se retrouver. Les pages sont magnifiques là-dessus. On peut se retrouver caché dans une rue en ayant peur. C'est-à-dire, à un moment donné, le temps et sa normativité revient profondément et violemment se rappeler à nous. Très vite, tous les gestes visibles de la révolte sont nettoyés, les vitres cassées sont réparées en 2 secondes, on ne sait même pas comment ils font pour aller aussi vite. Enfin, ça va à une vitesse incroyable, tout ça. Les gestes de la révolte, ils disparaissent, ils s'évaporent dans le temps normal. Jésus va créer un concept aussi pour répondre à cette question, sur la question du soi ou de l'expérience du soi pendant le moment de révolte, et surtout comment l'individu, on n'a qu'à dire, vit cette contradiction. Et ce concept, il l'appelle la double Sophia. Parce qu'effectivement, c'est le soi qui se retrouve à l'intersection entre les deux temps que l'on a définis. C'est lui qui fait l'expérience des deux, qui l'a fait violemment dans sa chair d'ailleurs, qui fait l'expérience des deux temps historiques, le temps suspendu et le temps normal. Et donc le soi, quand il se connaît lui-même, quand il arrive à avoir une conscience de lui, on n'a qu'à dire, pour Jésus, c'est quelque chose de très important. Il dit, je cite, « Lorsque le soi se connaît soi-même, se connaît lui-même, il connaît en même temps la permanence et la destruction de soi. Le temps historique, donc le temps historique qui est le temps de la permanence de soi, le temps où on est dans un quotidien normalisé, rationnel, mais au fond endormi, et le temps du mythe véritable, qui est la destruction de soi, d'une certaine manière, de toutes les croyances a priori, les croyances préalables qu'on avait. Donc le soi est l'élément commun, le point d'intersection entre deux universaux, celui du temps historique et celui du temps mythique. Donc ainsi, pour Jésus, il s'agit de comprendre que le soi, en se détruisant dans la révolte, en détruisant toutes les connaissances et la conscience a priori qui préexistaient au moment de la révolte, il participe néanmoins du temps historique, et il participe de l'histoire. Et comment il participe de l'histoire? C'est parce qu'il est arrivé à un concept de passé, et une conscience du passé, qui viendra infiniment inquiéter le temps historique, le temps normal. Donc l'autodestruction du soi pendant la révolte, c'est pas le sacrifice de Luxembourg, c'est pas ça, mais c'est l'inscription d'une mémoire de la révolte à l'intérieur du temps historique. C'est ça la question qui est importante. Comment est-ce que, ayant participé à la révolte, tu viens réussir à inquiéter le temps normal, le temps historique, avec une claire connaissance du passé, un rapport authentique avec le passé, comme il dit. Il dit que c'est une bataille intérieure entre l'espace suspendu et le temps normal. Pour Jésus, du coup, la révolte détruit le soi, en même temps qu'elle permet d'inquiéter le présent, et de le constituer comme un soi à venir, comme une nouvelle conscience de soi, ou une nouvelle individualité. Et elle le détruit parce qu'elle nous débarrasse de la fascination, elle nous débarrasse de la peur qui nous entourait, qui ne cesse de nous entourer, et parce qu'aussi elle nous enjoint dans le temps historique à nous tenir prêts pour détruire jusqu'aux conditions qui ont rendu cette peur, ces fascinations actives et effectives. Voilà, ça c'est les quatre points que je voudrais vous présenter du livre. Il y en aurait beaucoup d'autres à présenter. Merci en tout cas d'être venu.